la plupart des gens, quand ils me disaient « mais pourquoi tu fais ça ?» Il y avait le côté un peu jusqu'au bout de l'effort, quand on dit le dernier homme debout, ça fait un peu peur aux gens, alors qu'en fait, c'est un format où on peut vraiment se tester, où on se dit, bah, si j'ai envie de courir, j'ai jamais fait de semi-marathon, bah, je cours, je vais courir 4 boucles. Et donc, il y a tout ce type de niveau, il y a à la fois des gens qui font des trucs de dingue, et il y a des gens qui s'essayent à la course à pied, et qui ont envie juste de tester un format un peu marrant, quoi. Et tout ce monde-là est mélangé. Finalement, on a l'impression d'être un peu un athlète élite, quoi. C'est-à-dire que d'habitude, dans les courses, les élites, ils partent devant, puis tu les vois jamais, quoi. Parce que toi, t'avais même pas démarré, qui sont déjà arrivés. Là, en fait, à chaque heure, ils sont à côté de toi. Il y a beaucoup de partage et c'est un format qui permet ça.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une coureuse amatrice, Véronique Delon. Véronique va nous emmener à la découverte d'un format de course des plus originaux qui intrigue autant qu'il fascine, la Backyard. Une course issue du cerveau toujours très créatif de Laz, également à l'origine de la mythique Barclay. Son principe en quelques mots, effectuer aussi longtemps que possible un même tour de 6,7 km jusqu'à ce qu'une seule ou un seul coureur reste debout. La course peut donc s'étaler sur plusieurs jours avant de désigner son vainqueur. Ce que j'ai particulièrement aimé de l'histoire de Véronique, c'est que cette backyard a été l'occasion pour elle de passer au révélateur de capacités insoupçonnées jusqu'ici, elle qui s'était frottée jusqu'alors à des formats de course bien plus courts. Cette course l'a amenée à puiser plus que jamais dans ses ressources physiques comme mentales pour trouver l'élan de repartir à chaque fois pour une nouvelle boucle sur un parcours qui se répète et que l'on pourrait aisément imaginer monotone et très usant moralement. Mais je ne vous en dis pas plus, Véronique va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Bac à lauréat.
Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute!
Bonjour Véronique, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique pour nous parler d'un format de course très original qui est celui de la backyard. Comment vas-tu Véronique en cette belle journée ensoleillée de décembre ?
Eh bien très bien Guillaume, écoute j'ai traversé Paris pour venir te voir.
T'as échappé au torrent de flotte qui tombe aujourd'hui sur la capitale ?
C'est ça, j'ai eu un peu peur mais finalement ça s'est bien passé.
Finisseuse du trajet, ouais. Véronique, avant qu'on évoque plus particulièrement ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs ?
Oui, alors je m'appelle Véronique Delon, j'ai 39 ans, bientôt la quarantaine. Je suis mariée, j'ai deux enfants, Axel qui a 8 ans et Roxane qui a 6 ans. Et je travaille dans le digital, voilà.
Un bien bel univers.
Un bien bel univers, oui.
Est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport lorsque tu étais enfant, puis ado, et notamment de la place de la course à pied qui a visiblement trouvé très tôt une place dans ta vie ?
Oui, alors je pense que j'ai toujours couru. Alors le premier souvenir qui me revient, c'est qu'effectivement, moi j'ai su faire du vélo très très tard, peut-être à l'âge de 10 ans, je crois. Et donc du coup, j'accompagnais tout le monde en courant. Donc c'est vraiment quand j'ai essayé de réfléchir à me dire c'est la première fois que j'ai couru, c'était quand ? En fait, j'ai toujours couru parce que je savais pas faire de vélo et que pour accompagner les copains, il fallait courir. Et puis après, assez naturellement, j'ai fait les crosses du primaire, de l'UNSS.
Avec plaisir ou pas ? Parce que chaque personne que j'interroge sur les souvenirs d'athlètes et de course à pied jeunes, c'est quand même souvent lié à l'époque scolaire. C'est souvent assez traumatisant et un peu contre nature. Toi, c'était un plaisir ?
Ah non, moi, c'était un plaisir. En plus, j'avais la chance de les gagner, donc c'est toujours été un plaisir, ouais. Et après, j'ai continué. Alors, quand j'étais étudiante, je courais un peu moins, mais après, quand je suis rentrée dans la vie active, j'ai toujours couru au moins une fois par semaine, on va dire.
T'étais dans des clubs à l'époque ou c'était vraiment dans le cadre scolaire, principalement ?
Alors non, alors moi, ma pratique de la course à pied, c'est vraiment... Pour moi, c'est le sport de la liberté. C'est-à-dire que c'est le sport où il n'y a pas d'artifice, on n'a pas besoin de matériel. Alors évidemment, il faut un peu de matériel, mais on sort de chez soi, on a des baskets, on va courir, quoi. Et le club, pour moi, c'est une contrainte. Donc, j'ai jamais été dans un club.
Est-ce que tu baignais dans un environnement qui était très sportif autour de toi? Est-ce que tes parents, tes proches étaient dans cette mouvance-là et encore aujourd'hui? Ou est-ce que
non,
c'était
pas du
plutôt
tout.
À part dans le paysage?
Pas du tout. Mes parents ne sont pas spécialement sportifs. Mon frère est plutôt musicien que sportif. Donc, je suis un peu la seule de la famille à courir tout le temps. Et tout le monde se dit pourquoi elle court tout le temps.
Ça suscite parfois de l'incompréhension, effectivement, de la part des proches qui ne sont pas dans la course à pied.
Oui,
parce qu'ils se demandent un peu pourquoi on court, pourquoi on paye pour courir aussi sur certaines
courses.
C'est ça.
Alors, il y a effectivement la question du budget. Il y a la question du temps. Et puis après, ouais, c'est vrai que les gens se posaient la question de pourquoi tu t'infliges ça, quoi, quand, surtout en hiver, quand il commence à pleuvoir, qu'il fait froid, les gens ont du mal à comprendre qu'on puisse y trouver une certaine forme de plaisir. Et moi, pour le coup, c'est vraiment, je regrette jamais de sortir, quoi. Je me pose pas la question du temps, quoi.
Effectivement, on regrette jamais. Parfois, ouais, on hésite, et puis une fois qu'on l'a fait, on se pose jamais la question, on se dit pas, j'aurais dû rester dans mon lit, ça aurait été mieux, ça n'existe pas. Tu nous l'as dit, donc tu as pratiqué le cross plus jeune, et la compétition, c'était quoi justement ton rapport à la compétition? Est-ce que c'était pour toi un moyen de te galvaniser, ça te donnait une motivation très significative, ou est-ce que c'était plutôt écrasant et un exercice désagréable pour toi?
Ouais, je crois que j'aime bien le challenge. J'aime bien la notion de défi. Si on me lance un défi à la con, je vais essayer de le. je vais essayer de le faire, quoi. Donc, mon rapport à la compétition, c'est celui-là. Après, en grandissant, on se dit pas qu'on va gagner les courses. Donc, à moins qu'on soit sportif de haut niveau, la compétition après, elle est plutôt vis-à-vis de soi-même. Donc aujourd'hui, c'est plutôt de dépasser mes limites. Alors évidemment, quand je participe à une course, mes enfants, ils ont l'impression que je vais la gagner. Et quand je reviens avec la médaille, ils disent « Ah, elle a gagné !»
Ce qui est vrai, hein,
en quelque sorte. Ce qui est vrai vis-à-vis de soi-même. Alors après, on ne fait pas des podiums, quoi. Mais bon, voilà. Mais j'aime bien le côté, quand même, de se dire on a réussi à accomplir quelque chose, quoi.
Et puis en général, les jours de course, on donne un peu plus par la force des choses. On est quand même...
Ouais, alors après, moi, j'aime bien aussi, finalement, le courir hors compétition. J'aime bien la notion de partir à l'aventure. Et de dire, finalement, moi, j'adore courir d'un point A à un point B. Les autres, ils partent en voiture et moi, j'y vais en courant, quoi. Voilà. Et donc là, on n'est pas dans un truc de compétition, c'est plus...
Et tu connais toujours le point B, ou justement, parfois, le plaisir, c'est de ne pas savoir où il est et puis de te laisser un peu porter, puisque tu parles beaucoup de liberté.
Ah bah ouais, mais moi, j'aime bien... quand je me perds, je me dis, c'est pas grave, quoi. Ça fera quelques kilomètres de plus. Alors, des fois, on est en galère, on se retrouve dans une forêt, il y a des ronces, on n'a plus de batterie de téléphone, on ne sait pas trop où on est, mais bon, on finit toujours par retrouver son chemin, quoi. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire quelques kilomètres de plus, effectivement.
Ton parcours de course, il est assez singulier, avec des distances qui sont significativement allongées de façon assez soudaine et même inattendue, comme tu vas nous le raconter notamment aujourd'hui avec ta backyard. Est-ce que tu peux nous parler plus particulièrement de ta première expérience de marathon en 2020 et sa jeunesse? Comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce premier marathon assez atypique?
Oui, alors c'est assez marrant. Alors déjà, je pense dans un coin de ma tête, je m'étais dit un jour, j'aimerais bien faire un marathon. Mais comme je disais, autour de moi, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui courent, en tout cas sur des grandes distances. Donc je m'étais toujours dit, ça nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices aussi. Faut manger, faut arrêter de picoler, faut faire attention à son hygiène de vie, faut s'entraîner beaucoup. Donc je m'étais toujours dit, je suis pas prête à passer 3 mois à ne penser que marathon. Mais quand même, au fond de ma tête, je me dis, j'aimerais bien quand même accomplir ce truc-là, parce que tous les gens qui ont couru des marathons disent que ça a un peu changé leur vie, donc je voulais voir ce que ça pouvait faire effectivement sur moi également. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis inscrite à l'Éco-Trail de Paris, et avec le Covid, ça a été annulé plusieurs fois, et finalement, je m'étais inscrite aux 30 km. C'est encore annulé, je devais reprendre un nouveau boulot et je me dis c'est un peu le moment ou jamais d'aller courir une grande distance, et j'en parle à une copine qui me dit pourquoi faire un 30 km alors qu'en fait tu pourrais en faire 42. Donc je réfléchis un petit peu, et puis à ce moment-là, sur une application que tout le monde connaît, qui est Strava, je vois qu'on peut courir le marathon de New York à distance. Alors, maintenant c'est un peu rentré dans les mœurs, mais à l'époque il n'y avait pas beaucoup de courses connectées. Et je me dis, moi, je vais faire le marathon de New York, mais près de chez moi. Donc, moi, j'habite à Villejuif. Donc, j'ai fait Villejuif, je suis allée jusqu'à Draveil. Alors, il y avait des ponts, il y avait la Seine. Mais bon, c'était pas Brooklyn et c'était pas Central Park.
Côté.
Voilà. Et donc, je suis partie, c'est assez marrant, je suis partie un mardi matin. de chez moi avec mon petit sac d'eau et mes barres de céréales. Et puis bah voilà, j'ai terminé dans une rue de Thiers. au milieu de la foule. Alors, les gens savaient pas que j'étais en train de courir le marathon de New York. Alors, j'avais dans les oreilles, ce qui est assez marrant, parce que dans les oreilles j'avais le speaker. Ils font les choses assez bien. J'avais le speaker du marathon de New York qui commentait le trajet. Donc pour lui, j'étais arrivée à Central Park, mais moi j'étais arrivée à Thiers.
C'est drôle ça, cet accompagnement audio, c'est drôle. Sympa.
C'était assez drôle. Et depuis, à chaque fois qu'on passe devant, je tanne toute la famille en disant là ici, j'ai terminé mon premier marathon. Voilà.
Tu nous as parlé des crosses et de la course sur route. Est-ce que le trail, c'est aussi une discipline qui te plaît ou que tu as expérimenté déjà ?
Alors oui, alors je pense que moi j'ai fait du trail sans savoir que c'était du trail, hein. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans une grande ville et qu'on part sur des sentiers et que c'est pas forcément plat. En vrai, on fait du trail, mais c'est la pratique assez, enfin c'est la poursuite de la course à pied, mais dans des sentiers de nature. Et finalement, pour moi, j'avais le sentiment qu'il fallait courir de la même façon en course à pied ou en trail. Donc, je me retrouvais. Mes beaux-parents, ils ont une maison à Paimpol. Je me retrouvais sur le sentier des douaniers avec finalement pas mal de dénivelé. Des fois, peut-être 500 mètres de dénivelé. Et je courais. Il fallait que je coure à la même vitesse que sur route. Hein. Et puis, avec le recul, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas humain de courir la même chose. Mais dans ma tête, comme je n'étais pas baignée dans ce milieu du trail, c'était comme si je faisais de la course à pied.
Qu'importe le dénivelé, tu maintenais le rythme.
Ouais, c'est ça, il fallait courir vite, quoi.
Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont se structure une année de course pour toi ? Comment est-ce que tu choisis les courses auxquelles tu vas participer ? Est-ce que tu as besoin de grands rendez-vous un peu phares dans l'année ? Ou est-ce que tu décides un peu tout à la dernière minute ? Quel est ton mode de fonctionnement par rapport à ça ?
Alors non, j'aime bien quand même m'organiser. On va dire que j'aime bien les formats un peu atypiques. Donc, je suis assez sensible au fait que soit le lieu, soit le format soit un peu original. Et puis, j'aime bien aussi courir avec d'autres personnes. Alors, initier des gens à la course à pied, j'aime bien. Des gens qui, je sais pas, qui vont faire leur premier 10 km, leur premier semi. Souvent des copines, d'ailleurs. Et donc, ça nous permet de partager quelque chose. Et c'est comme ça que je choisis les courses, généralement.
La reine des baptêmes.
C'est ça, je cherche les formats où je me dis, je ne sais pas, je n'ai jamais couru au bord de la mer, je n'ai jamais couru de nuit, je n'ai jamais couru
de nuit au bord de la mer.
Voilà. Je n'ai jamais couru plus de X heures d'affilée. Voilà. Je pense que j'aime bien
explorer.
Ouais, j'aime bien le côté un peu, on va dire, exotique maintenant.
Ce qui veut dire qu'on a peu de chances de le voir deux fois sur la même course ?
Y en a tellement, en fait, des courses que... Il y a deux formats que je n'ai pas encore trop testés. C'est les courses obstacles, puisque je me dis, bon, en plus de courir, il faut aussi avoir un peu de force dans les bras, et ce n'est pas forcément mon truc. Et après, il y a toutes les courses où il faut être déguisé. Le marathon du Médoc, le marathon du Cognac, etc. Et je me dis, ça, c'est aussi... des formats qui sont assez festifs et qui me caractérisent bien.
Je devais faire une course déguisée en Père Noël ce week-end, là, je viens d'apprendre qu'elle était annulée à cause du Covid et du plan blanc. Donc, voilà.
La corrida d'Issy-les-Moulineaux.
Exactement, et malheureusement elle tombe à l'eau. C'est décevant parce que c'est quand même un grand moment et quand on est déguisé, ouais, c'est encore plus marrant. Véronique, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et puis tes points d'amélioration d'un point de vue physique, mental ? Qu'est-ce que tu estimes savoir faire raisonnablement bien et puis les choses sur lesquelles c'est plus compliqué ?
Alors, on va dire que mes points forts, je pense que j'ai un sacré mental. Les gens autour de moi, généralement, le disent assez régulièrement. Et en fait, je suis quelqu'un qui est profondément optimiste. C'est-à-dire que pour moi, rien n'est jamais un problème. C'est pas facile de suivre les gens comme moi parce que du coup, moi, j'ai besoin d'avoir de l'empathie pour les gens et de me dire, mais pourquoi pour eux, là, c'est un problème alors que pour moi, c'en est pas un. Mais du coup, comme je suis toujours ultra positive, je me dis que je vais y arriver, quoi. C'est pas, ça ne me traverse pas l'esprit que je ne puisse ne pas y arriver. Donc je pense que c'est une de mes grandes forces. Et après, dans mes points faibles, on va dire que oui, si je commence à faire des courses avec beaucoup de dénivelé dans la descente, je suis pas hyper sereine, quoi. C'est, je me dis bon, j'ai
exercice
je
difficile.
Peux me prendre les pieds dans le tapis.
Et,
ouais, ouais.
Je pensais dans les descentes. J'ai un verrou que j'ai pas réussi à faire sauter encore sur la descente où je suis très timoré. Parce que je pense à ma cheville à chaque fois en me disant oula, ce caillou-là, il me veut du mal.
Ouais. C'est vrai.
Est-ce que tu pourrais nous parler de la place que tient la course à pied aujourd'hui dans ton quotidien entre ta vie familiale, ta vie professionnelle? C'est quoi une semaine type pour toi et quelle place y trouve la course à pied? Alors peut-être en distinguant les phases de prépa ou les phases un peu plus cool, quel espace tu lui donnes?
Alors ça prend de la place. Après, j'ai pas une stratégie d'entraînement. Je sais pas. Il y a des gens qui sont vraiment qui calculent tout, qui sont ultra connectés, qui regardent toutes leurs performances, etc. Moi, c'est pas trop mon truc. Je vais pas adapter. Enfin, ça m'est arrivé d'aller courir un semi-marathon dans mon coin le lendemain d'avoir mangé une raclette. Bon, voilà, ça permet de digérer, mais donc j'ai pas, j'essaye de que ça n'empiète pas trop sur ma vie de tous les jours. Généralement, je cours deux fois par semaine. On va dire une fois un petit 10 km et puis après j'essaye le dimanche de courir un peu plus longtemps. Et puis là, ce que je trouve hyper chouette, c'est que mes enfants commencent à m'accompagner. Donc eux, ils sont en vélo et moi je cours et ça me permet de partager ça aussi avec eux. Donc c'est plutôt chouette.
Merci beaucoup pour cette présentation, Véronique. On va passer désormais à la basket chinoise, notre format de portrait chinois de l'épisode. Première question de cette basket chinoise, est-ce que tu pourrais nous dire, si tu étais un personnage fictif, qui serait-il ?
Alors du coup, j'ai pensé à Fifi Brin d'Acier.
Ok.
Parce que Fifi Brin d'Acier, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un personnage de la littérature suédoise. Elle a un petit côté rebelle, un peu badass, qui me plaît bien. Et puis surtout, à l'époque, c'était un livre qui luttait contre les stéréotypes de genre. Et voilà, je trouve que c'est une fille qui est inspirante pour toutes les autres femmes qui nous entourent. Donc voilà, j'aime bien ce personnage.
Belle référence, effectivement. Si tu étais un animal, lequel serait-il ?
Alors, si j'étais un animal, je serais un castor. Hein.
Junior ?
Un castor junior, ouais, peut-être. Non, le castor, je trouve que c'est un animal qui est hyper inventif, qui crée plein de trucs, qui fabrique ses barrages. Il est à l'aise dans l'eau, il est à l'aise sur la terre. Voilà, j'aime bien le côté créatif du castor. On n'en parle pas assez souvent.
Disons-le. Réhabilitons la créativité du castor, c'est le moment.
C'est ça.
Dernière question de cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'inspiration particulière pour toi ?
Alors oui, moi, c'est Catherine Destivelle. Alors... elle est assez, fait partie des sportifs des années 90. Moi, je suis passionnée, en plus de la course à pied, je suis passionnée d'alpinisme. Depuis petite, j'ai fait une colo, je suis allée marcher sur la mer de glace et ça m'a fascinée. Et donc, la course à pied me permet aussi de m'entraîner pour aller faire de l'alpinisme, parce que comme j'habite à Paris, bon, c'est un peu compliqué.
Plus compliqué, effectivement.
C'est plus compliqué, à part à Montmartre. Pas beaucoup de dénivelé ici. Mais donc, du coup, Catherine Destivelle, c'est quand même une des femmes qui a un peu exploré tout un tas de choses en alpinisme et qui a fait des records absolument dingues. Donc, voilà. En plus d'être une belle personne.
Très bien. Merci beaucoup de t'être prêtée à l'exercice, Véronique. On va maintenant passer à ta course épique, qui est l'Infinity Trail de l'île d'Aix, qui a eu lieu en 2021. Quelques mots introductifs pour présenter cette course au format backyard. Créée par Lazarus Lake, l'organisateur de la célèbre et mythique Barclay dans le Tennessee, le concept de la backyard est très simple. Il s'agit d'effectuer chaque heure une boucle de 6,7 km. Pour commencer la boucle suivante, il faut nécessairement avoir terminé la boucle précédente en moins d'une heure et se présenter sur la ligne de départ pour le départ du tour suivant. À défaut, c'est l'élimination. Ainsi, à chaque nouvelle heure, un départ est donné sur cette même boucle jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule participante ou participant en lice. Et la spécificité de cette course est bien là, il y a seulement une ou un vainqueur, tous les autres concurrents sont déclarés DNF, Do Not Finish. Le parcours de cet Infinity Trail d'Aix emprunte des segments sur route, des pistes larges sur les côtes, des passages sableux, des ponts, des remparts, avec en toile de fond une vue sur le mythique Fort Boyard, je ne sais pas si tu voyais le Père Fouras de là où tu étais, ou le Fort Liedo que je ne connais pas, voilà. En tout cas on a connu pire comme décor visiblement. Le circuit Infinity Trail est composé de trois backyards en France, à Osgore, sur l'île d'Aix, donc celle à laquelle tu as pris part. Et en Normandie, à Pavilly, où se déroule la finale française du circuit avec à la clé une qualification pour le vainqueur à la grande finale mondiale chez Laz avec les meilleurs coureurs du monde. La course se veut très prisée avec une liste d'attente fournie. Vous étiez seulement 150 participants sur cette édition 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et dernière info sur le sujet, je ne sais pas si tu avais scruté ces chiffres avant de toi-même te lancer dans l'exercice, mais le record du monde sur ce format est aujourd'hui détenu par Harvey Lewis, qui a réalisé en octobre dernier 85 tours, donc ça fait 85 heures de course, et quasiment 570 km d'effort. Il a fait ça à la Big Dogs Backyard Ultra à Bell Buckle dans le Tennessee. Voilà en quelques mots ce qu'il faut avoir en tête sur la course épique qui va nous intéresser aujourd'hui et qui vaut visiblement le détour. Avant que tu ne partages avec nous ce récit, c'est l'heure de l'exercice tant redouté de la question qui pique de course épique. T'es prête ?
Ouais, je suis prête.
T'as révisé ? Ça peut venir de partout, c'est imprévisible. C'est la question. Moi-même, je ne sais pas à chaque fois d'où ça vient vraiment et pourquoi c'est là, mais en tout cas, ça se veut bienveillant. Cette question qui pique aujourd'hui, elle va être consacrée à Laz, le mystérieux et souvent taquin, on peut le dire, créateur de la Barclay et de la Backyard, nous l'avons dit. Pour revenir plus particulièrement sur son parcours de vie avant qu'il ne soit organisateur de course, Laz a été très jeune féru de course à pied, c'est un point commun avec toi. En 1979, il court déjà ainsi entre 130 et 160 km par semaine. Il s'engage à l'époque sur les premiers ultramarathons, qui n'étaient pas aussi répandus qu'ils peuvent l'être aujourd'hui. Il prend surtout plaisir à relever des défis assez fous avec ses amis. Donc voilà, quand il s'ennuie le week-end, tu vois, il décide d'un seul coup de partir faire 500 km avec ses copains. Donc voilà, c'est des choses qu'il a réussi à faire en arrivant à chaque fois pile avant minuit. La course deviendra assez secondaire ensuite pour lui dans sa vie, Laz ayant, je le cite, compris qu'il n'était pas un coureur exceptionnel et qu'il s'entraînait dur pour être juste médiocre. Voilà. Donc il est assez sévère et s'auto-apprécie de façon assez sévère. Mais malgré ça, il a continué à pratiquer régulièrement la course à pied. Et donc il a signé récemment, il y a 3 ans, à l'âge de 64 ans, une bluffante et ambitieuse traversée à pied. Est-ce que tu me saurais me dire ce qu'il a traversé ?
Oui, alors je connais la réponse. Il a traversé les États-Unis. Je ne sais pas par quel, de quel côté il est parti et de quel côté
il est parti de Rhode Island jusqu'aux plages de l'Oregon.
Ouais, c'est quand même à 64 ans.
C'est joli, ouais.
C'est joli.
Bravo, c'est une bonne réponse, effectivement. Tu étais bien préparé.
Est-ce que tu sais combien de kilomètres il a parcouru ?
Je peux te dire. 5100 kilomètres.
Ouais,
okay. Je l'ai ça en tête. C'est à peu près une quarantaine de kilomètres par jour. En gros, il a mis 126 jours. Et 11 heures pour parcourir tout ce chemin et effectuer cette traversée. Et il a déclaré à l'issue de celle-ci, mes pieds me faisaient mal, je souffrais des reins, mais je n'ai pas arrêté, j'avais un but et je l'ai atteint. Donc je pense que c'est très représentatif de son état d'esprit et puis des valeurs de volonté, de détermination que Laz prend plaisir à mettre en avant et sur lequel il challenge les coureurs qu'il invite sur sa backyard. Et donc je le cite à nouveau, cela vient de mon enfance, lorsqu'on jouait aux cartes, domino ou jeux de société, ma famille nous adorait, mais il était hors de question de laisser les plus jeunes gagner, donc pas de passe-droit. Les victoires devaient se mériter, il m'a fallu perdre des centaines de fois, chuter, me relever, avant d'avoir la satisfaction de l'emporter. Le plaisir est plus fort lorsqu'on a lutté pour s'imposer. Donc je pense que c'est un principe qui est très valable sur la Barclay et puis sur la Backyard évidemment. Voilà, c'est un sacré personnage, là, on le savait, on peut dire qu'il est loin d'être barbant. Allez, c'en est fini de cette question qui pique. On va passer désormais à cette backyard sur l'île d'Aix. À toi de reprendre la parole pour commencer. Et bravo quand même d'avoir trouvé la réponse à cette question qui pique.
C'est merci.
Un petit exploit aussi en soi. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est née cette envie de participer à cette backyard ? Donc un format original, on a eu l'occasion de le dire. Et puis tu vas un peu étayer le propos sur le format de cette course. Et qui est en tout cas très différent de ce que tu avais réalisé jusqu'alors. Est-ce que c'est ça que tu venais chercher ? Tu as répondu à demi-mot tout à l'heure, mais tu venais chercher la différence aussi et l'exotisme d'une telle course ?
Alors oui, c'était vraiment ça. En fait, j'ai connu ce format en écoutant un podcast sur Guillaume Calmette, qui a participé à la Barclay, qui est un des rares Français. Il n'a pas gagné, je crois, mais il a participé à la Barclay. Et il parlait des différents formats de Lazarus Lake et de la Backyard. Et je me suis dit, le côté un peu jusque-boutiste du truc me plaît, j'essayerai bien. Et c'est à ce moment-là que le format est arrivé en France par Maud et Fred, qui ont une agence de voyage spécialisée sur le trail qui s'appelle Trail the World. Et ils ont lancé le circuit des Infini Trail. Et donc j'ai commencé à regarder, et malheureusement, comme c'est pas une course où on peut être nombreux à participer, parce qu'il faut être pas très loin de la ligne de départ et donc de la ligne d'arrivée. La première fois que je me suis inscrite, j'étais sur les attentes. Et puis, quand le format est arrivé sur l'île d'Aix, je me suis dit, mais en plus d'avoir de la plage, j'ai la chance de participer à peut-être une des plus belles au monde, parce que le cadre, comme tu l'as dit, est juste exceptionnel. Donc voilà comment on met...
Les conditions étaient réunies.
Oui.
Et donc, tu as réussi à être...
J'ai réussi à être, entre guillemets, sélectionné. Alors, il n'y a pas de sélection, c'est un peu premier arrivé, premier servi. Mais voilà, et aujourd'hui, je crois que le format est en train de se développer, parce que j'ai vu qu'il lançait une quatrième backyard à Dijon. Donc voilà.
La famille s'agrandit.
La famille s'agrandit, oui.
Et c'est une course qui avait été reportée en raison du Covid ou est-ce qu'elle s'est tenue à la date initialement prévue ?
Non, elle a été reportée d'à peu près un an. C'était assez... Dans ma tête, ça me trottait à chaque fois de me dire, c'est comme c'est un format où on ne sait pas à l'avance, on ne sait pas qu'on va finir, enfin, il n'y a pas de fin. Donc c'est très particulier quand on est sur la ligne de départ, on ne se dit pas, bon, bah là, dans 2 heures, j'aurai fini, ou dans 3 heures, ou dans... Donc dans sa tête, c'est très bizarre. Et donc à chaque fois que le truc était reporté, je me disais, ah mais quand même, quand est-ce que je vais pouvoir me confronter à ce... Donc ça m'occupait un peu l'esprit quand même.
On l'a compris, t'es pas forcément dans des cadres de préparation qui sont très stricts ou très établis. Malgré tout, est-ce que t'as mis en place une préparation ou en tout cas des briques de préparation un peu spécifiques sur cette course ou t'as rien fait de différent pour cette fois-là ?
Alors si, quand même, donc comme tu l'as dit, c'est une boucle de 6,7 km. Alors t'as pas expliqué pourquoi, donc je vais le faire. C'est 6,7 km parce que quand on court pendant 24 heures, en gros ça fait 100 miles, qui est un peu la distance mythique aux États-Unis. Et donc quand on divise ça par 24 heures, en kilomètres, ça fait 6,7. Donc moi ce que j'ai fait... c'est que j'ai calculé une boucle à partir de chez moi de 6,7 km et j'avais vu que les gens qui performent un peu sur ce type de format, donc qui font plus de, comme tu as dit, 80 tours, c'est quand même assez hallucinant, ils courent à environ, ils mettent 50 minutes pour faire la boucle. Donc je me suis entraînée comme ça, j'ai commencé par faire... je crois une fois j'ai fait 2 boucles autour de chez moi, donc 2 heures. Et puis après une fois j'ai fait 4 boucles en me disant ah bah au final donc 4 boucles ça fait quand même déjà plus d'un semi-marathon. Et c'était déjà très particulier parce que quand je suis rentrée à la fin des 4 heures, j'étais pas du tout fatiguée par rapport à une course que j'aurais pu faire à un rythme plus soutenu. Donc déjà dans ma tête je me disais ah c'est quand même un format où peut-être on peut courir longtemps, mais j'étais pas sûre.
Dans quel état d'esprit, disposition physique, tu te sens quelques jours avant ? Est-ce que tu as l'impression d'être, je ne sais pas si c'est au pic de ta forme, mais en tout cas, plutôt dans des bonnes dispositions ?
Oui, je suis plutôt dans des...
Pas de blessures qui sortent de nulle part.
Non, alors après, moi, j'ai une pratique de la course à pied qui fait que je... Quand je sens que ça va pas, j'y vais pas, quoi. Enfin, il y a des gens qui sont un peu plus acharnés et donc finissent par blesser. Moi, j'ai la chance de m'être jamais blessée, parce que quand ça va pas, j'arrête, quoi.
J'ai préalablement posé le cadre global de cette backyard, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur son organisation sur place en termes de gestion de l'alimentation, des espaces de repos ? Tu parlais, tu l'as dit juste avant, l'emplacement aussi, enfin le fait qu'il y a une limite de nombre de personnes qui peuvent prendre part parce qu'il ne faut pas être très loin de la ligne de départ parce qu'à un moment tu dois être à l'heure dite sur la ligne et donc ça se joue dans des petits détails sur si tu es très loin, si tu attends, si là où tu te nourris, où tu te reposes, où tu bois, etc. C'est loin, c'est forcément ça complique un peu la tâche, ça te défavorise. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça, l'assistance médicale, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, enfin, voilà, comment est-ce que vous êtes suivi et nous projeter juste dans concrètement comment c'est organisé sur place la logistique.
Alors déjà pour moi, peut-être j'ai pas dit tout à l'heure, quand je choisis des courses, j'aime bien aussi le en amont toute l'organisation, ça fait partie de l'aventure pour moi, le fait de préparer, de regarder un peu, je sais pas, de réserver un Airbnb à côté, de se dire voilà comment on va y aller. Alors là en plus c'est sur une île, donc il fallait prendre le bateau, donc il y a quand même une certaine logistique à mettre en place. Et donc pour la logistique, j'y suis allée avec mon mari qui a accepté de m'accompagner. Donc il faut aussi noter que pour les gens qui accompagnent, les gens qui font des courses comme ça, c'est un vrai challenge aussi parce qu'il faut faire les ravitaux toutes les heures quand les personnes franchissent la ligne de départ. Donc il a accepté de venir avec moi et finalement il était ravi de m'accompagner, il a été au top.
On peut se dire aussi que c'est plus sympa que de se croiser sur des formats tous les 20 ou 25 ou 30 km sur des courses habituelles où on se croise toutes les 3-4 heures. Là au moins il était sûr de devoir passé
alors oui, effectivement, les autres fois où je suis dit « Ah, je cours, il faut que tu viennes » et qu'il me voyait passer en 2 secondes 30, bon, bah, il l'a fait 2 fois et puis après il m'a dit « Non, mais c'est bon ton truc là, ça va quoi ». Effectivement, là, toutes les heures, il était sûr de me voir. Donc on est arrivé, donc le format démarre le vendredi à 14h. Donc on est arrivé le vendredi matin sur l'île d'Aix, donc tout le monde prend le même bateau, donc c'est plutôt sympa. On a commencé à tous se rencontrer, quoi. Et puis après, on a un petit stand donc qui n'est pas très loin de la ligne de départ, sur lequel on peut installer tout ce qu'on veut. Donc la plupart des gens, ils ont une tente, je ne sais pas, un sac de couchage, et puis de quoi se nourrir. Alors après, il y a des ravitaillements toutes les 3 heures qui sont fournis par l'organisation, avec des fruits, du bouillon, des pâtes.
Pas de raclette ?
Pas de raclette, non, pas de raclette, malheureusement. Et puis, ben, moi, j'avais pris. En fait, j'avais pris plein de choses parce qu'en fait, c'est un format qui est. On est dans l'inconnu total, quoi. Donc, je me disais, je sais pas combien de temps je vais courir, je sais pas ce que je vais avoir envie de manger, je sais pas. Combien de ce que je vais boire, etc. J'avais pris 3 paires de chaussures, j'avais pris. Enfin bon, bref, on est arrivé un peu avec beaucoup de choses. À côté de moi, il y avait des gens beaucoup plus minimalistes qui étaient arrivés avec un sac à dos qui avait mis une couverture de survie sur l'herbe et puis voilà, qui avait juste 3-4 trucs. Nous, on était quand même bien équipés. Et puis le départ est donné à 14h. Donc à chaque tour, en fait, il y a une petite sirène, enfin un petit pouet-pouet, 3 minutes avant le départ, et puis après 1 minute avant. Et donc 3 minutes avant, les gens commencent un peu à s'affairer, et puis 1 minute avant, tout le monde est sur la ligne de départ.
On rembobine un petit peu dans le temps. Est-ce que tu peux nous dire avec quel objectif toi tu te présentes sur cette backyard ? Qu'est-ce que tu imagines pouvoir y réaliser ? Qu'est-ce qui serait source de satisfaction pour toi ?
Alors, je m'étais un peu renseignée et quand on arrive, en fait, Maud et Fred demandent combien de tours on souhaite faire. Et donc moi, je m'étais renseignée et je m'étais rendu compte que la plupart des gens faisaient 10 tours. C'était la moyenne, 10 tours. Donc
l'air de rien, c'est 67 km.
C'est 67 km, puis c'est 10 heures. Donc c'est déjà, bon, il faut avoir le temps de le faire. Et donc moi, je me dis, ah, bah, j'ai déjà fait un marathon, mais pas officiel, donc je ne sais pas trop. J'avais aussi lu que le format permettait aux gens de doubler la distance qu'ils avaient déjà parcourue. Donc je m'étais dit, ah, bah, moi, j'ai déjà fait un marathon, peut-être que je pourrais faire, je sais pas, 60, 80 km. Donc j'arrive et je dis, bah, moi, je vais faire 8 tours. Et ils me disent, bah non, tu vas en faire 10. Donc ils écrivent 10 sur leur feuille. Donc je dis, bon, ok, bon, bah, soit. Partons pour 10. Et là, devant moi, il y a une personne qui dit, bah, je vais faire 48 tours.
Et je dis, ah. Pas oui. Personne.
Et donc je dis, ah, quand même 48 heures de course, c'est quand même pas mal. Et puis en fait, cette personne-là était juste à côté de nous, avait le stand à côté de nous. Et je me suis rendu compte que c'était un spécialiste des 24 heures et des 48 heures. Donc, bah pour lui,
c'était 48... le malade du dimanche.
Ouais, c'est ça. Presque. C'est ça. Alors après, il faut quand même avoir quelqu'un qui, parce que la course s'arrête quand l'avant-dernier en fait stop et que le dernier finit un tour. Le dernier peut pas courir tout seul à l'infini parce que c'est pas non plus un truc. C'est pas marche ou crève, quoi. Donc il faut quand même avoir des bons assistants. Donc, quand lui il avait dit 48 tours, il espérait qu'il y ait des gens qui puissent le suivre sur au moins 47 tours.
Tu nous l'as dit, donc ton objectif c'est 8 tours. Sur cette backyard, il y a autant de stratégies que de coureurs ou presque. Est-ce que tu peux nous parler de celle que toi tu avais décidé d'adopter ? Est-ce que tu, sur ce que tu avais initié comme principe pendant ta préparation, et ce rythme de. Enfin, un objectif en tout cas sur chaque heure courue, enfin, chaque bloc d'une heure, courir. Quel temps t'imaginais courir sur chaque bloc d'une heure ?
Alors, il y a des gens qui, effectivement... Alors, il y a des gens, déjà, qui ne savent pas courir lentement. Donc, courir à 7 ou 8 km heure, finalement, quand on pratique la course à pied, c'est quand même assez lent. Donc, il y a des gens qui couraient très, très vite, puis après, qui s'arrêtaient. Alors, il y a des gens qui arrivaient en 35 minutes pour faire leur boucle, et puis, comme s'ils avaient le temps d'aller manger, de se reposer.
Donc, très concrètement, ça veut dire qu'ils ont 25 minutes pour faire autre chose et se retaper.
C'est ça.
Et ils doivent juste être sur la ligne au bout d'une heure pour repartir pour un tour.
Moi, je m'étais rendu compte que finalement, j'avais pas trop envie de me refroidir, j'avais pas envie de courir trop vite. Donc moi, je suis partie les 8 premiers tours, je les ai faits avec Sandrine. Et Sandrine, un peu même profil que moi, elle avait déjà couru un marathon, mais pas plus. On a couru un premier tour et puis on a pris un peu des points de repère. On s'est dit, ah bah, quand on passe à la barrière, là, on est à 25 minutes. Quand on passe au rempart, on est à 39. Et puis finalement, on arrivait à entre 50 et 53 minutes. Après, je trouve que quand on a moins de 5 minutes pour, je sais pas, aller aux toilettes, changer des chaussures, commencer à manger un bout, ça commence à faire juste. Donc moi, je m'étais dit, il me faut au moins entre 10 bonnes minutes, on va dire, pour me reposer et pouvoir repartir.
Quelle est ta plus grande interrogation avant de te lancer ? C'est quelque chose qui te fait peur ?
Bah oui, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est vraiment très particulier. C'est-à-dire qu'on est sur la ligne, et puis, donc, comme je disais, il y a le coup de klaxon. Et quand on part sur n'importe quelle course, on se dit, bon, bah, on a déjà un temps de référence dans sa tête. Là, on part en se disant, je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Donc, il y a quand même. Et moi, j'avais un peu peur de ce truc, de me dire, ah, je suis un peu tarée dans ma tête, je vais être jusque boutiste, je vais me blesser. Mon père me disait ça, mais pourquoi tu fais ça? Tu vas te blesser. Donc j'avais cette crainte de me dire, mais ça se trouve, je vais finir hyper mal, je vais vomir, je sais pas. Enfin, il y avait tous ces trucs-là dans ma tête. Et en même temps, je me disais, ouais, mais c'est le bon format pour justement aller tester tout ça, se dire. Moi, j'avais une approche un peu scientifique du truc, de me dire, mais jusqu'où mon corps il peut aller, quoi? À quel moment je vais me dire non, mais là c'est plus possible, quoi. Sans aller jusqu'à la blessure, hein, vraiment de se dire quand est-ce que je vais m'arrêter.
Donc finalement, choisir un peu toi ta limite, en fait. C'est pas une limite, ouais, qui est imposée par une ligne d'arrivée, mais c'est toi te dire, comprendre derrière ce qui détermine le moment qui doit être la fin.
Et en fait, la plupart des gens, donc au démarrage, Maud et Fred nous disent, la plupart des gens, en fait, c'est le plus dur, c'est pas de partir. Enfin, les gens n'arrêtent pas au milieu d'une boucle, les gens ne repartent pas sur la ligne de départ. Et moi, je me disais, bah, c'est quand même dommage de ne pas tenter de faire la boucle, quoi. Dans ma tête, je m'étais dit, je vais forcément m'arrêter parce que j'arriverai trop tard.
Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette backyard ?
Je m'attends à vivre... Je me dis, pour moi, c'est c'est l'opportunité de voir combien de temps je peux courir, combien de kilomètres je peux faire, sur un format qui est finalement beaucoup moins individuel qu'une course où quand vous courez sur 40 km, bah, finalement, vous ne croisez personne, quoi. Enfin, les gens qui courent à la même vitesse que vous, mais c'est tout. Donc, je m'attends aussi à vivre une expérience, vraiment pas qu'une course, un truc assez collectif, quoi.
Est-ce que tu avais eu l'occasion de repérer la boucle en amont de la course, ou est-ce que tu considérais que tu allais déjà suffisamment en profiter pendant la course elle-même ?
Alors non, on n'a pas fait la boucle.
T'es partie à l'aveugle ?
Ouais, je suis partie à l'aveugle. Alors après, au bout de la troisième boucle, en fait, voilà. Alors il y a eu cette petite surprise, effectivement, la boucle se termine par un couloir de sable, puis il y a une petite dune à franchir. Donc,
la belle surprise.
La belle surprise, ouais. Les premiers tours, on se dit, oh, c'est sympa, un peu de sable. Et puis on regarde les marées. Alors c'est drôle, comme c'est sur une île, on voit la marée qui monte, qui descend, etc. Et puis bon, au bout d'un certain nombre de tours, le sable, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer, quoi ? Qu'est-ce que je fais là ?
Est-ce que tu peux nous parler des conditions météo ? Ça se passe au mois d'octobre, donc ça peut être... on peut imaginer qu'Alex peut faire raisonnablement beau, mais rien n'est garanti. Est-ce que les conditions sont favorables ?
Il fait un temps juste magnifique. Avec la vue sur le Fort Boyard. L'île d'Aix, c'est l'île où Napoléon, un petit instant culturel, c'est l'île où Napoléon s'est retranché avant d'abdiquer et d'être exilé sur une autre île, l'île d'Elbe. Et donc, c'est une île qui est complètement fortifiée par Vauban. Donc, le parcours est juste magique. Il y a toutes ces fortifications, il y a le Fort Boyard au loin. Il faisait hyper beau. On n'a pas du tout souffert ni de la chaleur ni du froid. Donc c'était pour moi des conditions juste uniques. J'espère que les autres backyards auront ces conditions-là.
Ça y est, le départ est donné. Est-ce que tu peux nous parler de ton plan de route? Et notamment, il y a un espèce de premier bloc, les 8 premiers tours, ce que tu t'étais mis en tête de réaliser. Est-ce que, comme l'apprécie tant Hannibal dans l'agence touriste, le plan se déroule sans accroc sur ces 8 tours?
Alors le plan se déroule sans accro. Donc comme je disais, j'ai couru avec Sandrine. En fait, assez vite, moi je me suis dit, si je cours toute seule, je vais pas tenir très longtemps. Donc, et puis en plus, j'aime bien j'aime bien parler, on va dire. Et le format, comme on ne court pas très vite, on n'est pas très essoufflé, donc on a l'occasion de croiser les gens. Et puis comme on les retrouve à chaque fois sur la ligne de départ, finalement, on a le temps de se raconter un peu nos vies. Donc moi, j'ai partagé ces instants-là avec Sandrine. Je crois qu'elle, son objectif, c'était de faire 7 ou 8 tours. Donc on en a fait 8 ensemble, donc elle était aussi ravie. Donc 8, ça fait quand même déjà presque 50 km. Hein. Donc pour des gens, on va dire, normaux, c'est déjà exceptionnel. Pour les gens qui font des backyards, c'est le début de l'histoire, quoi. Donc
c'est les rookies.
Ouais, c'est ça. C'est un monde très particulier parce que moi, j'ai touché du doigt ce monde de l'ultra que je connaissais pas du tout. Alors, tous les gens, ils ont des t-shirts de toutes les courses du monde, donc c'est assez marrant parce qu'on peut aller faire un peu son marché pour les prochaines années, quoi. Et c'est vrai qu'ils ont tous fait des trucs de dingue, quoi. Ils ont tous fait soit des ultras en montagne, soit ils ont fait des 6 jours, ils ont fait des. Enfin, voilà, c'est. Donc moi, je me disais, je fais pas du tout partie de. J'étais la littéraire du lycée, quoi. J'étais un peu je les regardais en me disant, moi, je suis pas comme vous, quoi. Je viens là, si je cours mon marathon, je serais contente. Et puis.
Et t'as aussi pu constater que t'étais pas la seule, peut-être, à avoir aussi cette vision plus modérée de la backyard, parce qu'il y a aussi des personnes qui font finalement que quelques tours, peut-être même encore moins que 8. Enfin, il y a vraiment à l'autre bout du spectre. Il y a aussi des coureurs qui viennent juste s'amuser quelques petites heures.
C'est ça. Alors, la plupart des gens, quand ils me disaient « Mais pourquoi tu fais ça ?», il y avait le côté un peu jusqu'au bout de l'effort. Quand on dit « Le dernier homme debout », ça fait un peu peur aux gens. Alors qu'en fait, c'est un format où on peut vraiment se tester, où on se dit « Bah, si j'ai envie de courir, j'ai jamais fait de semi-marathon. Bah, je cours, je vais courir 4 boucles. » Et puis, alors après, moi, mon mari m'avait dit « T'as intérêt à faire plus que 4 boucles, parce que sinon, ça fait cher de la boucle. » Donc on avait ce truc quand même de se dire bon allez il faut amortir ouais, c'est un levier de motivation, mais effectivement je crois que les premiers ont arrêté au bout de 4 heures parce que bah, tout bêtement il fallait reprendre la navette, le bateau, donc ils sont repartis au bout de 4 heures. Et donc il y a tout ce type de niveau, il y a à la fois des gens qui font des trucs de dingue et il y a des gens qui s'essayent à la course à pied et qui ont envie de tester un format un peu marrant, quoi. Et tout ce monde-là est mélangé. Donc c'est un truc qui est assez dingue. Finalement, on a l'impression d'être un peu un athlète élite, quoi. C'est-à-dire que d'habitude, dans les courses, les élites, ils partent devant, puis tu les vois jamais, quoi. Parce que toi, tu n'avais même pas démarré, qu'ils sont déjà arrivés. Là, en fait, à chaque heure, ils sont à côté de toi. Donc, et puis, ils te donnent des conseils, ils te disent ce que tu dois faire quand ce que tu dois manger, si tu dois rajouter une couche de vêtements, si comment tu dois t'alimenter. Enfin, il y a beaucoup de partage et c'est un format qui permet ça.
Une des premières choses qui vient à l'esprit quand on pense backyard, en tout cas ce qui a été le cas pour moi, c'est la question de la monotonie du parcours et comment est-ce qu'on a la force et dans quoi on puise en fait pour repartir pour un tour et faire une boucle qu'on connaît par cœur et sous toutes les coutures. Est-ce que ça a été le cas ou est-ce que c'était peut-être un peu particulier avec l'île d'Aix qui t'a offert un décor plus changeant ?
Alors, ça reste une boucle, donc il y a ce côté un peu effectivement monotone. Après, c'est 6,7 km, donc c'est pas. Je crois que les gens qui font des 24 heures, c'est des boucles de 1,5 km autour d'un stade, là, ça doit être l'enfer. Là, on est quand même sur un format où le paysage est joli et finalement. Oui, on connaît le parcours, mais ça va. Comme je disais, on peut échanger avec les gens, ça fait passer le temps.
Et le fait qu'il y ait la mer, peut-être aussi, les marées, ça fait un peu changer l'environnement et la perception.
Oui, je pense que si on fait, un aller-retour dans un gymnase, bon, ça doit être un peu plus...
Très ingrat.
Ouais. Mais justement, psychologiquement, c'est encore plus dur. Mais là le décor est juste sublime, quoi.
Tu nous l'as dit, donc tu te retrouves seul après 8 heures d'effort. Tu as bouclé les 8 premiers tours. Est-ce que tu appréhendes la suite ou est-ce que tu te surprends finalement à être étonnamment assez fraîche et sereine pour prolonger l'aventure ?
Alors effectivement, je suis hyper étonnée parce que Sandrine s'arrête et je me dis bon ok, pour moi c'est le début de l'histoire. Alors que j'ai déjà couru 50 km.
Ton objectif était atteint déjà ?
Mon objectif était atteint, mais je me dis, mais en fait...
Rien ne m'empêche de continuer.
Alors, à partir de 8 boucles, il fait nuit. Donc moi, je m'étais dit, ah bah, j'avais jamais couru de course avec une frontale. Donc déjà, j'avais aussi ce deuxième objectif d'atteindre, de me dire, ah bah, ça y est, j'ai couru avec ma frontale. Je ne l'ai pas emmenée pour rien. Et puis, j'ai un peu découvert ces courses qui permettent de courir pendant des heures de nuit, etc. Et là, je me dis, bon, faut pas que je reste toute seule parce que sinon... ça va être un peu à la fois monotone et puis un peu triste aussi, quoi. Et assez vite, je retrouve deux personnes, Sam et Karim, où on commence à parler et puis on commence à faire une boucle ensemble et puis deux, puis trois. Et eux n'ont pas du tout la même stratégie que celle qu'on avait avec Sandrine. Donc nous, avec Sandrine, on courait et puis quand il y avait du sable et des côtes, on marchait, quoi. Donc Sam et Karim, eux, ils ont une autre stratégie. Ils courent pendant 5 minutes, puis après ils marchent pendant 1 minute. Donc eux, ils ont la montre vraiment connectée, ils suivent le temps, etc. Donc moi, je me laisse porter par ça, et puis je commence à courir avec eux.
La méthode Cyrano, ça s'appelle.
C'est ça, ouais. Bah ouais, c'est ouais. Ça.
Donc oui, tu te cales sur leur rythme et ça te va bien. Enfin, par rapport à ce que toi t'avais établi, c'est pas contre nature. T'arrives à t'adapter relativement facilement à ce mode de fonctionnement parce que je pense que ça requiert quand même un peu d'habitude en fait. C'est quand même.
Alors, j'arrive à m'adapter. Ce rythme-là. Moi, j'avais ce truc de me dire bon, tous les 2-3 tours, faut que je m'arrête pour aller aux toilettes. Donc besoin primaire. Et donc, bah, généralement, alors il y a deux stratégies, c'est assez marrant. Il y a des gens qui vont à la fin de la boucle, et puis du coup, bah, t'as moins de temps pour te reposer. Ou soit, t'y vas juste quand la boucle reprend, mais ça veut dire qu'après, il faut cavaler pour rattraper les gens. Moi, j'ai testé les deux. Finalement, je me disais que c'était mieux d'y aller à la fin de la boucle. Mais eux partaient effectivement beaucoup plus vite que moi et je les rattrapais après coup, quoi.
Tu nous l'as dit, donc on est sur un passage nocturne de la course. Est-ce que ça sublime finalement l'expérience pour toi ou est-ce que ça peut parfois la rendre peut-être monotone, pour reprendre le terme, ou peut-être même anxiogène parfois? Quel effet ça produit sur toi?
Alors, à la fois, je trouve ça génial de courir avec la frontale. À la fois, je me dis, bon, j'ai pas envie d'être toute seule au milieu de l'île avec les bruits ambiants et il y a un passage de forêt. On se fait un peu des films dans sa tête de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer si je me retrouve toute seule dans la forêt Donc, j'ai un peu de dans ma tête, ça cogite un peu, mais sinon, je trouve ça plutôt sympa de courir de nuit. Et puis après, il y a le. Finalement, on est quand même encore assez nombreux. Je crois qu'on est encore au moins peut-être une soixantaine à courir. Donc au début, on était 128. Hein, donc il y a eu le passage des 8 tours. Donc 8 tours, je crois qu'il était minuit. Il y a des gens qui se sont dit le changement de jour, là, j'arrête, quoi.
Sans moi. Tu te laisses au fil des tours convaincre de tenter d'aller chercher un palier très symbolique, celui des 100 km. Est-ce que finalement, tu n'es pas en train de tomber dans une espèce de dynamique et un cercle vertueux de motivation qui fait que plus tu y arrives, plus tu te dis que tu peux encore continuer à y arriver et que finalement, tout ça peut te mener très loin? Comment tu vis là, à l'idée de te dire que tu vas quand même potentiellement accrocher les 100 km qui sont évidemment hautement symboliques?
Dans ma tête, c'est très bizarre parce que je me dis, mais j'ai déjà couru 40 km. Déjà, j'étais partie en me disant, si j'en fais 60, ce serait fou. J'arrive à 80, et puis là, à 80, les gens avec qui je cours me disent « Mais non, mais en fait, tu vas en faire 100. » Je dis « Mais 100 km, c'est pas fait pour moi, jamais de la vie, je vais jamais faire 100 km. » Et puis peut-être ce qu'on n'a pas dit, c'est que sur les participants, il y avait une dizaine de femmes. Et donc, au fur et à mesure... Donc déjà, j'avais dit à mes enfants « Moi, je vais faire un top 10. » Bon, je m'avançais pas trop... Ma fille me dit « Mais non, tu vas arriver troisième. » Je dis « Quand même, c'est un peu dur à aller chercher troisième. Les autres, c'est des gens qu'on fait, je sais pas, la Diagonale des Fous, l'UTMB, etc. » Donc, on n'est pas dans la même catégorie. Et puis là, au fur et à mesure, je crois qu'à 100 km, on n'est plus que 4. Donc, je me dis « Ça devient quand même assez dingue. » Les gens s'arrêtent. Et moi, dans ma tête, je suis bien. Je commence à être un peu rouillée, mais j'ai pas spécialement de... J'avais un peu mal au genou, mais rien de plus. Je commence à expérimenter ce que connaissent les gens dans les ultras, c'est-à-dire que bon, au bout d'un moment, t'es juste super mal au bide, tu sais pas trop ce que tu veux manger. J'arrive sur les ravitaux, mon mari, encore une fois exceptionnel, arrive avec des pâtes. Je prends une gorgée, je me dis non mais en fait, ça me donne la nausée. Donc je finis par manger des tucs que je trempe dans du thé. Je pense que c'était les meilleurs tucs de toute ma vie.
Et le moins bon thé, probablement.
Et le moins bon thé, ouais, c'est ça. À part ça, où évidemment, ton intestin et ton estomac, ils sont en train de se dire « Mais pourquoi tu nous fais ça ?» Le reste, ça fonctionne plutôt bien. Donc finalement, je me dis « Mais ça fait quand même 15 heures qu'on est là. » Et ça va.
Pour prolonger sur la discussion sur la position de ta course, à ce moment-là, tu commences à avoir des informations un peu contradictoires sur le nombre de participantes qui sont encore en course, jusqu'à ce que tu aies une surprise très étonnante.
Oui. Alors, pour moi, on était encore quatre femmes. Et puis finalement, je crois qu'il y en a deux qui arrêtent, au 12e tour, je crois que c'est comme ça. Et là, je reprends la ligne de départ. Et puis, mon mari me dit « Ah, vous n'êtes plus que deux femmes ». Je dis, oh, c'est fou. Et puis le 15e tour arrive, et là je vois que la deuxième, elle a mis une veste, donc je me dis, elle s'arrête. Et je demande à Fred, je dis, mais je suis la dernière femme. Il me dit, non, vous êtes encore deux. Puis je reprends, je fais ma boucle, donc la 15e, et donc j'entame la 16e. Et là mon mari m'envoie un petit message en me disant, oh, t'es la dernière femme. Dans ma tête, c'est l'euphorie, quoi. Je me dis, mais c'est fou. Je pensais pas. Alors, il y a qu'un seul gagnant. Hein. C'est une course mixte, donc c'est pas. Il y a pas de gagnant homme ou femme. Mais quand même, je me dis, je suis la dernière femme de cette course. Et donc là, tous les autres hommes qui m'entourent sont hyper gentils, quoi. Ils sont vraiment. Adorable, dire ah mais c'est fou ce que tu es en train de faire, parce que eux-mêmes commencent aussi à rentrer dans le dur, on commence tous à dire bon ça fait quand même longtemps qu'on est là, et ils sont juste hyper contents pour moi, quoi.
Ça a un effet donc de boost immédiat, enfin ça te met dans des dispositions psychologiques encore plus favorables, donc tu trouves les ressources pour rajouter deux tours à ta collection, un 16e et un 17e tour,
ouais.
Qui seront tes derniers. Tu décides d'arrêter ensuite, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui a fini te convaincre que c'était le moment d'arrêter ? À quel moment tu te dis, là, je ne peux plus faire un pas de plus, ou c'est plus raisonnable de le faire ? Qu'est-ce qui a influencé cette décision ? Est-ce que tu penses peut-être que tu aurais pu encore pousser un petit peu, ou comment est-ce que tout ça s'est décidé ?
Mais alors du coup, au 15e, donc je continue, et puis après je fais un 16e, puis je me dis, allez, je vais plier le game, quoi. Je vais faire un 17e, comme ça on ne pourra pas dire que je suis la dernière femme juste pour un tour, quoi. Et j'arrive plus à suivre le rythme de Karim et Samuel. Donc je cours toute seule dans mon coin, dans le noir. La frontale, elle commence à manquer un peu de batterie. Et puis assez vite, en fait, j'ai plus de jus, quoi. J'ai pas mal quelque part ou quoi. C'est juste que je cours à 7 km/h, mais j'ai l'impression de courir à 14, quoi. Je me rends compte que là où avant je passais, la moitié du parcours assez vite, là, je commence à avoir du retard. Et donc j'arrive la 16e boucle, peut-être à, 54, 55 minutes. Donc je me dis, j'ai plus beaucoup de temps pour récupérer. Et la 17e, je me dis, contrairement à ce que je m'étais dit en me disant, je vais forcément arrêter au milieu d'une boucle, la 17e, je me dis, non, je peux pas repartir parce que je vais pas terminer la 18e. Donc je décide de m'arrêter. Et là, tout le monde me dit, mais attends, t'as le sourire, tu fais des blagues, t'as fini en courant, tu peux pas t'arrêter, quoi. Et puis, mon mari, lui, il était aussi au bout de sa vie, en fait, parce que lui, ça faisait 17 heures qu'il m'attendait toutes les 45 minutes à préparer de l'eau, à préparer des trucs, dans le froid. Alors lui, il n'avait pas les endorphines, il n'avait pas l'excitation de la course, quoi. Donc lui, il n'était pas non plus en mode « Allez, il faut que tu continues », etc. Et les organisateurs non plus, ils sont sur un truc juste, faut que les gens prennent du plaisir. Donc je décide de m'arrêter là. Et après, j'ai regretté en me disant, t'aurais dû tester de faire un 18e. Mais je me voyais pas retourner toute seule dans le noir, même s'il y avait que 3 ou 4 km à faire.
Quelle est la première émotion que tu as ressentie au moment de faire le dernier pas de cette backyard?
La première émotion, c'est que je me suis dit, alors déjà, je ne pensais pas, donc on parle quand même, là, j'ai fait 114 km, donc je me dis, mais c'est fou, en fait, je peux faire des ultras. Je ne savais pas. C'est comme si j'avais découvert une compétence cachée. C'est comme si, je ne sais pas, j'avais commencé à prendre une feuille de papier et puis à me dire, en fait, je suis Picasso, quoi. mais sans le savoir avant, ou jouer d'un instrument de musique, une compétence que tu sais pas que tu as en toi, et tu découvres ça, quoi. Je m'étais toujours dit, je suis un peu, comme je disais, j'ai un bon mental, donc je peux pousser des efforts assez loin, et puis quand je fais de l'alpinisme, je fais des efforts assez longs au final. Mais là,
de la révélation.
Ah ouais, c'était vraiment une révélation. Et ce qui est assez marrant, c'est que il y a tout un cérémonial, en fait, quand on termine la course. Donc, il y a un tableau où les gens, avec le prénom des gens. Et quand on termine, on va barrer son prénom. Et donc, je barre mon prénom. Et là, je ne peux plus marcher. Vraiment, je pense
pas
que...
Pas de moteur.
Et puis même, j'ai les jambes raides, quoi. Le corps s'est dit, non, mais là, c'est bon. C'est fini, quoi.
Tu es donc la dernière femme debout de cette backyard, comme le veut l'expression consacrée sur ce type de course. Est-ce que tu peux nous parler du palmarès de la course et notamment du nombre de tours qui ont été réalisés par le vainqueur?
Oui, donc du coup, le vainqueur, c'était notre petit camarade de camp, Alain, qui a lui réalisé 35 tours.
Il aurait pu en faire le double, mais il a été stoppé par le second, c'est ça?
Oui, il a été stoppé par le second, Mathieu, qui s'est blessé et donc qui a décidé d'arrêter au bout de 34 tours. Et effectivement, Alain, au bout de 35 tours, on a l'impression qu'il venait de faire ses 10 km tranquilles, quoi. C'est quand même des gens qui ont des capacités un peu hors du commun, quoi. Et donc je me dis, ah, mais j'ai touché du doigt ce truc-là.
Quels ont été pour toi les facteurs clés de ta réussite sur cette course? Comment est-ce que tu expliques que tu sois à ce point-là révélé sur ce format longue distance? Donc tu as parlé de l'aspect mental. Est-ce que tu vois d'autres choses qui pourraient expliquer que tu es...
Alors, je pense que j'ai eu la... Alors, déjà, il y a eu plein de facteurs qui ont fait que cette course était assez... C'est bien passé pour moi. La météo, le fait d'être aussi bien accompagné, d'avoir bien préparé le truc. Et puis, d'avoir trouvé ces gens avec qui j'ai couru, Sandrine, Samuel et Karim. Alors, Karim, lui, Samuel, il s'est arrêté à 24 heures. Et Karim, il a couru jusqu'à 25 heures, et lui, je crois que pareil, au maximum, il avait couru 50 km dans sa vie, donc c'est quand même
incroyable.
Ouais, c'est assez incroyable. Et donc, je pense que pour moi, c'était ça. Je me suis dit, j'ai été bien entourée, et ça m'a permis de me surpasser. Et j'ai vécu cette expérience avec ces gens-là. Et si je reparticipe à ce type de format, il faudrait que je retrouve des gens avec qui courir, quoi, parce que...
Le format s'y prête assez bien, c'est ça qui est intéressant.
Et le format s'y prête, ouais.
J'avais eu l'occasion d'évoquer le sujet avec Élise Delannoy, que j'avais reçue dans notre 26e épisode, qui était consacré à son record du monde de D+ en 24 heures. Est-ce que, comme elle, tu as la conviction que plus les distances s'allongent, notamment sur les formats d'ultra, à passer un certain niveau de kilomètres, en tout cas, plus le nivellement s'opère entre les femmes et les hommes?
Ah oui, carrément, en fait, moi, quand on a démarré la course, je voyais, c'était assez marrant parce que devant moi, il y avait des espèces de Golgothes, des mecs un peu baraques, un peu... Et je me disais, si je termine, si lui, il s'arrête avant moi, c'est un peu débile, hein, moi, je me disais, si lui termine avant moi, j'aurais gagné quelque chose, quoi. Et effectivement, c'est des formats où on n'est pas sur de la force physique, on n'est pas sur... on est plutôt sur... Enfin, c'est très... ça se passe un peu dans la tête, quoi. Il faut... gérer son effort, gérer sa douleur, se dire je peux continuer. Et donc les femmes là-dessus, elles ont toutes leurs chances en fait par rapport aux hommes. Et d'ailleurs, il y a des backyards qui ont été gagnés par des femmes devant tous les hommes. Donc c'est aussi marrant pour ça comme format, c'est de se dire on est sur un truc, on est un peu sur un pied d'égalité, quoi.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui s'essaierait à l'exercice pour la première fois? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire?
Alors, je dirais qu'il ne faut pas partir trop vite. Il faut garder un rythme assez... Il faut toujours garder le... Je pense qu'il faut se dire, je fais ma boucle en tant de minutes et avoir une certaine régularité. Comme ça, on est... dans sa tête, on est organisé, quoi. C'est un truc un peu matheux, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tous les gens qui participent aux courses de Lazarus Lake, c'est des gens plutôt matheux, quoi. Il y a un espèce de puzzle qui s'opère. Alors là, à chaque tour, on dit, bon, au prochain tour, qu'est-ce que je dois faire? Alors, bah, moi, j'ai eu évidemment quelques ampoules, donc mais dis, bon, bah, il faut que je soigne mon ampoule. Là, il faut que je rajoute, je sais pas, un gilet parce que la nuit tombe et qu'il commence à faire froid. Là, il faut que je mange du salé. Là, il faut que je mange du sucré. Là, il faut toujours anticiper. Donc, c'est il faut avoir ça en tête à chaque tour de se dire bon, j'arrive, j'ai 5 minutes. Qu'est-ce que j'en fais?
Optimisation et mettre à distance tout ce qui est imprévisible en étant le plus structuré possible, puisqu'il se passera par nature déjà suffisamment de choses qu'on n'a pas prévues. Donc, essayer de cadrer en tout cas déjà toutes les choses sur lesquelles on a la main et bien anticiper. C'est ça que c'est je comprends. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cette backyard? Qu'est-ce qui te reste? Alors, aujourd'hui là, ton flash?
Moi, j'ai une image, c'est le lever du soleil. Alors, le soleil, il s'est levé, donc j'ai dû arrêter de courir vers 7 heures. Et du coup, le soleil s'est levé à 7h30. Et c'était assez marrant parce que quand j'en parlais autour de moi, tout le monde me disait bon, bah, si tu cours jusqu'à la nuit, ce sera bien. Et j'ai une copine qui me disait non, mais toi, t'es capable de faire des trucs de fou, tu vas voir le lever du soleil, quoi. Et je suis dit mais n'importe quoi. Et donc, je vois ce soleil se lever, et là, je reçois quand même pas mal de messages de copains qui sont allés se coucher, quoi. Et qui se disent, mais t'es toujours en train de courir, c'est fou. Parce qu'encore une fois, je pense que quand t'es entouré de gens qui font des ultras, bon, déjà, tu trouves ça quand même dingue si toi, t'en fais pas, mais tu dis, ah, il y a des gens qui courent toute la nuit, quoi. Là, moi, les gens se disaient, mais attends, mais t'as couru toute la nuit, quoi. Mais n'importe quoi, nous, on a eu le temps de faire 1000 trucs et toi, t'es toujours en train de courir, quoi. Et donc, nous, on a juste un copain qui habite à La Réunion et qui s'est dit, y a un truc à faire là-bas, c'est la Diagonale, qu'on avait suivi comme ça un peu, qui était parti un vendredi, qui avait terminé un dimanche. Et autour de nous, c'était juste lunaire qu'il fasse ça. Et là, je me dis, ah, mais moi aussi, en fait, j'ai fait ça. Et quand je m'arrête, je me dis pas que c'est vraiment moi qui ai fait ça. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. J'ai du mal à réaliser, en fait, ce truc.
J'ai vérifié sur le site, il y a bien ton nom et ton chrono. Bien...
Oui,
c'est vraiment
ça,
toi, c'est une certitude.
C'est vraiment moi.
Ou peut-être une homonyme, mais je ne crois pas. Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi?
Bah, elle m'a appris que je pouvais repousser des limites quand même. C'est pour moi insoupçonné, quoi. C'est vraiment le... On dit souvent la course à pied, c'est le dépassement de soi. Là, il y a... C'est de se dire, oui... On se met plein de barrières, en fait. On dit, bah, je sais pas, moi, je me dis, les ultras, c'est pas fait pour moi. Je me serais pas inscrite, par exemple, sur un 100 km. Ou je l'aurais fait, les gens m'auraient dit, mais ça va pas ou quoi? Alors que là, finalement, ça permet de faire son 100 km sans partir directement là-dessus. Donc, c'est ces barrières-là qu'on arrive à lever. Et puis, il y a... Ouais, le côté, on peut oser faire quelque chose, quoi. Je pense qu'on a moins peur en prenant son dossard sur une backyard. Alors si on a peur de s'arrêter en premier, je pense. Mais bon, c'est quand même un peu la honte, quoi. mais comme il y a des gens qui s'arrêtent parce que voilà, y a pour d'autres raisons que. C'est assez. Ça donne confiance en soi. Ça donne. Moi, ça m'a. J'étais sur mon petit nuage, quoi, pendant... je suis retournée bosser, j'avais plus de jus, parce que moi, j'étais un peu flagada, mais sinon, j'étais sur un petit nuage pendant plusieurs semaines après, quoi. C'était quand même assez... on se dit, j'ai réussi à faire ça dans ma vie. Alors qu'on savait pas qu'on allait... Enfin, c'était pas écrit, quoi, donc...
Est-ce que tu as eu les idées claires sur ce que peut être le coup d'après? Est-ce que tu as envie d'aller chercher autre chose? Et si oui, quoi? Alors peut-être pas forcément à très court terme, mais est-ce que tu as déjà imaginé une aventure, un défi qui aurait particulièrement de symbolique pour toi et que tu aimerais accomplir dans ta vie? Est-ce que tu sais déjà ce que ça pourrait être là dans les mois ou années à venir?
Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai commencé par un truc hyper atypique et là, je me suis inscrite à un truc hyper mainstream qui est le Marathon de Paris. donc... je me dis, bon, faut un peu cocher le truc d'avoir fait un vrai marathon avec un vrai dossard, quoi. Donc,
L'arrivée sera pas à Draveil, par contre.
Non, l'arrivée, là, sera pas à Draveil. L'arrivée sera, j'espère, beaucoup plus belle. Et c'est drôle parce que, du coup, mes parents, quand je leur ai dit, bon, bah, je me suis inscrite au marathon de Paris, ils m'ont dit, ouais, random, quoi, normal. Alors qu'avant, ils auraient dit, mais ça va pas, ok, pourquoi tu. Voilà. Alors, quand même, ils m'ont toujours encouragé hein, dans les trucs. Quand je fais de l'alpinisme et tout, ils sont les premiers à m'encourager à faire ça. Donc, je me suis inscrite au marathon de Paris et puis je me suis réinscrite pour l'année prochaine sur la Bacarde de l'île d'Aix parce que Sandrine y retourne, parce que Samuel y retourne et qu'on s'est dit, on reprend les mêmes et on recommence. Donc,
Et là, combien de tours? T'as déjà réfléchi à ce que tu as envie de faire?
Là, c'est la pression.
Réflexion.
Là, c'est la pression. Là. C'est-à-dire que. Et puis là, pour le coup, ça me fera limite plus. C'est un peu comme quand tu sautes en parachute. Quoi. La première fois, tu sais pas, donc bon, bah, t'y vas. Et la deuxième fois, en fait, t'es hyper flippé. Là, là, je me dis, ah, si je fais moins que 17, bon. Donc il y a ce petit coup de pression en plus, quoi. Mais sympa.
Pour conclure cet épisode, j'ai l'habitude de demander à mon invité le motto de la fin. Donc voilà, c'est pas le mot de la fin, c'est voilà, une devise qui a particulièrement de sens pour la personne que je reçois. Quel motto tu souhaiterais partager avec nous et qui illustre ta philosophie de vie?
Alors, moi, j'ai un motto en anglais qui est « Take the best, fuck the rest ». Garder le meilleur et on va dire... Jeter tout ce qui vient vous polluer, quoi. Ouais, parce que je trouve que, voilà, on a... Il faut pas se mettre de... Faut enlever toutes les ondes négatives, quoi. Alors, encore plus en ce moment, là. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut se donner la chance de... quand on a envie de faire quelque chose, faut pas trop se poser la question, en fait. C'est un peu ma philosophie de vie... j'aime bien ça. Je trouve que c'est très un peu le de se dire dans la difficulté il y a aussi des opportunités et donc là c'était un peu pour ça que je m'étais inscrite, quoi, de me dire bon bah on va en faire un truc cool, quoi.
Merci beaucoup Véronique, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de nous faire vivre cette expérience de course très atypique, on l'a dit, ça a été une formidable révélation pour toi à la fois dans la nature même de ce qu'est cette course, qui est très surprenante à plein d'égards, mais aussi dans tes capacités que tu ne soupçonnais pas, ou en tout cas pas autant jusqu'alors. Bravo à toi pour cette très belle performance et ce passage réussi autant qu'inattendu dans le monde de l'ultra trail. Ça y est, c'est fait. Merci encore pour nos échanges. Voilà, je te souhaite beaucoup de bonheur et puis beaucoup de réussite pour tous tes projets, toutes tes aventures qui se profilent. Il se passera plein de belles choses, j'en suis convaincu.
Eh ben merci à toi et merci de donner la parole à des sportifs aussi amateurs comme moi. J'espère que ça inspirera d'autres personnes et inscrivez-vous vite sur les Bacardes parce que ça se remplit très très vite.
Merci à toi Véronique, c'est un plaisir de t'avoir reçu. À bientôt.
Merci, au revoir.
Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.